Déambulation.
Bonjour à toutes et à tous, ici Louis pour RDWA sur 107.5 FM et www.rdwa.fr. Aujourd'hui, je suis en déplacement aux établissements Lassalle, au 135 avenue de la Clairette à Die, créé en 1935 par Joséphine Lassalle, l'arrière-grand-mère de Julien Lassalle, qui a repris il y a un an cette activité. Auparavant, c'était Monsieur Michel Lassalle, et qui officie dans différentes activités. Monsieur Lassalle, bonjour.
Bonjour Louis.
J'ai souhaité vous donner la parole parce que vous avez participé très récemment à une des dernières biotopes que nous avons réalisées dans le thème de la laine. Et nous avons été passionnés par le fait que vous étiez un des derniers créateurs de matelas laine et vous valorisez certains produits locaux. Peut-être qu'on pourrait commencer par là, par un historique de cette entreprise. Et puis après, on pourrait passer en revue vos activités et me faire visiter votre entreprise.
Eh bien exactement, Louis, avec grand plaisir. L'établissement Lassalle a été fondé en 1935, donc comme vous l'avez dit, par Lassalle Joséphine, qui était donc mon arrière-grand-mère, qui était installée sur Miscon. Donc à cette époque-là, ils étaient agriculteurs, mais également tapissiers matelassiers. Donc ils refaisaient les matelas de laine avec les sommiers tapissiers. C'était une époque auquel ils se déplaçaient chez les gens en tracteur ou localement avec une sorte de gros chariot à roulettes qu'on appelle le charton. Donc ils apportaient la petite cardeuse à main, ils s'installaient chez les gens pendant quelques jours et ils refaisaient les matelas de laine directement dans la cuisine ou dans la cour de la ferme. Donc ils prenaient ces matelas de laine, ils les défaisaient, ils recardaient la laine à la main, donc ils faisaient un gros tas de laine, un gros volume, et puis après ils remontaient tout ça sur le métier. Ils piquaient tous les bourrelets à la main, tout était fait à la main. Donc maintenant, cette activité-là, elle est toujours un peu la même, mais elle a évolué. Donc elle a évolué dans le sens où après, ça a été Charles Lassalle qui a repris l'activité. Donc l'activité était toujours la même parce qu'il faisait les fauteuils, donc tout ce qui était petites chaises assez simples à faire, également les matelas de laine avec les sommiers tapissiers. Mais lui, après, s'était installé sur Die. Donc le système était toujours le même, on se déplaçait chez les gens. Jusqu'au moment où mon père, Michel, a repris l'activité et lui a fait beaucoup de chemin parce qu'il a traversé de la maison du grand-père, il a fait 3 mètres pour s'installer en face et il a ouvert la première boutique. Donc à ce moment-là, c'était un peu également l'arrivée de ces nouveaux matelas qui étaient à base de ressorts. Donc l'activité a commencé à évoluer. Là, on a commencé à sentir un peu un changement. Donc il a fallu répondre à des problèmes de stockage, il a fallu faire une surface de vente, et puis l'activité de tapisserie a commencé un peu à évoluer. Donc au bout d'une quinzaine d'années, étant donné que le magasin commençait à être petit, la surface de stockage était petite, c'est à ce moment-là qu'il s'est intéressé à l'achat d'un bâtiment qui est situé au 135 avenue de la Clairette, sur lequel nous sommes encore. Et à cette période-là, ce bâtiment-là a servi uniquement pour faire du stockage. Mais très rapidement, il s'est rendu compte que quand il était là pour décharger les camions, il y avait beaucoup de personnes qui s'arrêtaient parce qu'ils étaient demandeurs d'un certain produit. Donc il n'a pas cherché midi à 14h. Il a décidé de délocaliser le magasin du centre-ville à la périphérie d'Audi. Donc le magasin actuel est toujours le même. Seulement après, il a encore fallu pousser un peu les murs. Donc on a dû créer encore de la surface de stockage plus un atelier. À cette époque-là, le magasin était avenue de la Clairette, mais l'atelier était encore rue du collège. Et ça fait maintenant à peu près une quinzaine d'années que l'atelier est situé avenue de la Clairette, auquel on a déménagé toutes les machines. Et depuis maintenant un an, j'ai repris l'activité. Donc mon père est parti à la retraite. Moi, j'ai fait mes études dans l'objectif de reprendre ce magasin. Donc j'ai passé un CAP de tapissier décorateur et un bac professionnel de tapissier décorateur dans une école d'art située à Lyon.
Je vous interromps parce que déjà j'ai envie de réagir à ce que vous avez dit. Moi, ce qui me fascine, c'est qu'en 1935, une femme crée une activité. Ça ne devait pas être courant à l'époque, les femmes chefs d'entreprise.
À cette époque-là, j'étais pas né, mais je pense que c'était pas vraiment le rôle. Mais d'après le récit de mon père sur la famille, je sais que c'était une femme très forte, qui avait beaucoup de caractère. Bon, ça m'étonne pas. Ça m'étonne pas, mais c'était aussi peut-être un peu le début du changement des mentalités à ce moment-là.
Mais c'est vrai qu'après la guerre 14-18, où tous les hommes étaient au front, c'était le début de l'investissement massif des femmes dans les usines. Donc effectivement...
Exactement. Ça correspond un peu à ce moment-là où, très certainement, les hommes se sont rendus compte que les femmes pouvaient avoir les mêmes capacités qu'eux.
Alors, quelles sont les activités des établissements La Salle actuellement ?
Alors, actuellement, on a deux activités, parce qu'on a donc toute la partie d'artisanat et l'activité de négoce. Donc, la partie artisanat, c'est toute la réfection donc des fauteuils de style. Donc, on nous amène une carcasse de fauteuil et nous, on leur propose une réfection, que ce soit en garniture traditionnelle ou en garniture moderne. Donc, la garniture traditionnelle, c'est tout ce qui est à base de ressorts et de crins. Et la garniture moderne, c'est tout ce qui va être à base de mousse, de produits alvéolaires, de produits en fait un peu pétroliers transformés, quoi. Voilà. Mais également, donc, notre activité d'artisanat, on a toute la partie tapisserie, c'est un domaine qui est assez vaste et sur lequel on a besoin d'énormément de connaissances. Donc on est capable de faire une confection de voilage, de rideaux, on est capable de poser des moquettes tendues sur Thibaud, de faire des tapis d'escalier, de faire des plafonds tendus, des tentures murales, tout ce qui est décor de fenêtres au niveau des châteaux. Donc ça, c'est une activité qui demande à peu près au minimum 4 ans de formation, mais sur lequel on continue à se former toute la vie. Parce qu'il faut avoir des connaissances en histoire de l'art également. C'est un domaine qui est vraiment très très vaste et sur lequel on ne peut pas s'improviser tapissier. Voilà. Également dans cette activité d'artisanat, on a toujours donc, la fabrication des matelas de laine. Et maintenant, les matelassiers commencent à manquer. Il y a encore ça devient un secteur de niche un peu, parce qu'il y a encore une demande. Il n'y a plus beaucoup de tapissiers qui savent les faire. Donc aujourd'hui, nous, on a quand même une demande d'autres professionnels, d'autres tapissiers qui se rabattent sur nous pour qu'on les fournisse en matelas de laine et en sommier traditionnel tapissier. Mais étant donné que l'activité literie a un peu évolué, nous, on a suivi un peu l'évolution parce qu'on s'est mis à fabriquer du sommier à latte. Donc ces sommiers à latte sont des sommiers traditionnels, seulement à la comparaison de ce que peut produire un industriel, sur la même base de prix, on va être à peu près sur la même qualité, on va être à peu près 100 € moins cher que ce que va proposer un industriel. Alors pourquoi on arrive à ce prix-là ? C'est parce que déjà on travaille en direct. Donc on n'a pas il n'y a pas la marge du négociant qui s'applique dessus, mais également on travaille aussi sur des produits locaux. Donc tout ce qui est sommier, nous on va les fabriquer avec des planches de sapin qui sont donc débitées sur une scierie qui est surdit, notamment ce sont des sapins qui viennent du Vercors. Après tout ce qui est au niveau latte, aujourd'hui on a deux fournisseurs différents, mais c'est des lattes qui sont à être, qui sont bombées, et ce sont des lattes qui apportent un certain dynamisme au niveau du matelas. On peut comparer ça à d'autres lattes, comme les lattes en bouleau, qui est un bois très léger. Donc ça fait des lattes pas chères pour fabriquer du produit pas cher. Mais la qualité s'en ressent parce que rapidement, les lattes s'aplatissent et puis ne donnent plus l'effet qu'elles doivent donner. Et puis nous, au niveau de la latte, on prend les plus épaisses qu'on trouve sur le marché. C'est du premier choix. Et après, au niveau des sommiers également, ce sont des sommiers qu'on va visser et coller. Donc sur lesquels on va rajouter 4 renforts latéraux pour le rigidifier un maximum. Donc c'est des sommiers qui ont une durée de vie de facilement 25-30 ans.
Donc on ne peut pas les comparer aux matelas qu'on peut acheter chez Ikea qui viennent de Taïwan par exemple.
Voilà, c'est complètement différent parce que c'est vrai qu'eux ils vont avoir un produit, nous ce qu'on appelle le latte massive, c'est des sommiers qui sont fabriqués un peu comme des palettes de transport. C'est le même système de fabrication, c'est de la planche qui est assemblé, donc il n'y a plus ce bombé qu'on a sur la latte qui apporte un certain dynamisme au matelas. Surtout, eux, c'est des sommiers qui sont fabriqués au pistolet à graffeur, donc c'est des choses qui peuvent prendre du jeu assez rapidement. Nous, les sommiers que l'on fabrique, on met à peu près 3h30 pour fabriquer un sommier, entre le moment où on prend une planche, où on va la débiter, où on va la raboter, où on va l'assembler, donc la coller et la visser, plus l'habillage au niveau du sommier, il nous faut à peu près 3h30. Après, également, on a continué à suivre un peu l'évolution, parce qu'aujourd'hui, étant donné que dans le commerce, on vend de moins en moins de lits, la tendance est au sommier déco, donc avec un tissu de déco, avec une tête de lit. Donc cette évolution-là, on l'a continué, parce qu'on propose une large palette de choix. On a des collections de tissus, étant donné qu'on est tapissier, on a beaucoup de tissus. On a le showroom de 4300 références de tissus. Donc le client peut choisir son tissu dans le showroom et nous, on peut lui poser sur le sommet. Donc ça, c'est un atout concurrentiel vraiment fort. Parce que maintenant, depuis un peu tous les industriels ont suivi cette tendance-là et se sont mis à sortir ces sommiers déco, mais eux, on va les retrouver en 3-4 coloris, que nous, sur une même collection, on est capable de proposer en 53 coloris. C'est vraiment de la personnalisation à moindre frais.
Ces sommiers dont vous me parlez sont donc à un prix, vous m'avez dit, concurrentiel, par rapport à des prix fabriqués par des industriels, mais est-ce que par rapport à des sommiers fabriqués à Taïwan, ça ne doit pas être la même chose ?
Disons que au niveau de l'activité literie, il y a encore beaucoup de production française, parce que finalement, faire venir des produits de Taïwan sur un gros volume comme celui-ci, ce n'est pas très rentable encore pour les importateurs. Alors effectivement, ça n'a rien à voir, parce que nous, on s'est positionné sur la qualité équivalente, que ce soit chez les grandes marques, on est à peu près 500 euros moins cher. Après, ça se ressent énormément dans nos ventes, parce que quand on parle aux clients que c'est un produit fabriqué par nous ici à l'atelier, donc juste derrière le mur, là où sont exposées les literies, et qu'en plus de ça, moi je fais la démonstration, hein, je lève le matelas, je monte debout sur les lattes, elles ne cassent pas. Voilà. Je fais un peu moins de 80 kg, mais les lattes résistent, sans aucun problème. Que ça, sur des sommiers entrée de gamme, qu'on est obligé d'avoir malgré tout, ça, par exemple, c'est quelque chose que je ne me tenterais pas à faire.
Passer à travers, quoi.
Oui, mais ça serait pas un bon exemple pour le client. Donc nous, ces sommiers-là, mon père a commencé à les fabriquer il y a 30 ans, et depuis 30 ans, on n'en a jamais changé.
Toujours dans votre activité artisanale, vous avez aussi une activité réfection de chaises, rempaillage et...
Alors, pas exactement rempaillage. Rempaillage, c'est vraiment un autre domaine qui ne sont pas dans mes compétences. Par contre, des rempailleurs, on en connaît vraiment des bons sur qui on peut renvoyer au niveau de la clientèle. Nous, c'est vraiment l'aspect traditionnel. Donc, par exemple, on va parler un peu de ce Voltaire que j'ai fait. Donc, c'est un Voltaire en coupe. C'est un fauteuil Voltaire.
Pour nos auditeurs, nous sommes devant l'armature en coupe d'une chaise Voltaire.
Voilà. Alors, c'est un fauteuil qu'on retrouve énormément dans le Diwa. Quand on descend un peu dans la vallée, sur Valence, on va avoir plutôt des styles un peu plus raffinés. Donc, on va se retrouver sur des chaises Empire, des fauteuils Empire ou du Louis XVI. Et quand on remonte dans la vallée, on se retrouve sur des produits, je dirais, un peu plus grossiers, qui ont bien leur charme, mais c'est des choses un peu plus simples à faire, un peu moins raffinées. Donc là, on part d'une carcasse d'un fauteuil, et sur cette carcasse, on a découpé au niveau des étapes de fabrication, un peu comme sur les salons automobiles, quand ils ont des voitures qui sont coupées en deux pour montrer vraiment tous les aspects, on a fait exactement le même principe. Donc là, on monte notre travail traditionnel, donc les sangles, les ressorts, notre partie, ce que j'appelle le guindage, c'est toute cette partie-là des ficelles avec tous les nœuds, auxquels on se retrouve avec quasiment les mêmes nœuds marins qui sont utilisés. Après, on a toute notre garniture, donc notre première toile jute, notre crin animal, qui est mis en forme dans des lacets. Après, on met notre toile jute, qu'on va piquer. Donc là, on fait à peu près 5 points différents. On a le point de fond, le point arrière, le point avant, le point noué. Et sur lequel, après, on va venir adoucir cette garniture avec du crin animal. Donc le crin animal, c'est celui-ci, qui est un peu noir, blanc et marron.
C'est du poil de cheval ?
Alors, c'est du poil de cheval et du poil de cochon, mélangé. Voilà. Après, on finit avec une toile blanche, qu'on appelle nous la toile de propreté, pour mettre en forme le crin animal. On met une ouate et le tissu.
Oh, ça fait un sacré nombre de couches.
Ça fait beaucoup de couches. Alors, pour arriver à la couche, à la toile blanche, qui est avant la ouate et le tissu, il nous faut à peu près 8 heures de travail. Au minimum. Sur un fauteuil comme ça, c'est 8 heures de boulot. Et puis sur le dossier, c'est un peu le même principe, seulement on n'a pas les ressorts. Donc ici, tout le bourrelet est piqué main, mais on se retrouve exactement sur le même principe.
Et puis, il y a aussi les accoudoirs, je vois, il y a encore du travail.
Alors les accoudoirs, il y a encore un peu de travail. Donc là, on est sur du crin animal à l'intérieur. Après, on a une toile blanche, on a une ouate, encore une toile blanche, encore une ouate. Et puis le tissu qui est mis par-dessus. Au niveau de la finition, on peut proposer plusieurs produits. On a tout ce qui est clous dorés, les clous argent. On peut mettre des clous nickelés, ou on peut mettre du passepoil, on peut faire des finitions double passepoil, on peut mettre du galon, on peut faire beaucoup de choses.
Et puis vous peignez aussi le bâti avec du gros noix.
Voilà, alors au niveau de la carcasse, on peut faire un peu tout type de laque. On peut faire des vernis en chêne, en merisier, comme là, en brou de noix. On est capable de faire des aspects cirés, on peut faire un petit peu tout type de, de finition que le client souhaite.
Alors sur cette chaise, il y a un panneau interdit de photographier. Est-ce que vous avez des secrets de fabrication?
Non, c'est pas vraiment des secrets de fabrication. C'est suite à un problème qu'on a eu. C'est une personne est rentrée dans le magasin, qui se dit tapissier, qui ne l'est pas, qui a fait une photo du produit pour se les mettre sur une plaquette commerciale.
Ah. Voilà. 8h30 de travail, ça doit pas être donné en fait.
8 heures de boulot pour faire juste une assise. Après, il y a encore le dossier. Si le dossier est bien sûr est à réfectionner, généralement sur les fauteuils, les dossiers sont encore bons. Après, c'est vrai que passer partout, un produit comme ceci, entre la garniture d'assises, la garniture de dossier, la pose du tissu et la vente du tissu, il faut avoir un budget à peu près de 1300 et 1600 euros suivant le métrage de tissu qu'il va falloir ou la qualité du tissu qu'ils vont choisir.
Là, on a une chaise qui est censée durer presque éternellement.
Alors là, une garniture traditionnelle, comme ça, au niveau durée de vie, c'est 30 ans, en utilisation quotidienne. Après, aujourd'hui, on se retrouve à proposer des alternatives, parce que, étant donné le coût de la main-d'œuvre qui augmente malgré tout, et puis les fournitures, il faut qu'on arrive à gagner du temps, parce que le prix essentiel d'un fauteuil, c'est la valeur ajoutée au niveau de la main-d'œuvre. Donc pour gagner du temps, pour éviter d'avoir toutes les garnitures à piquer, on propose du semi-traditionnel, ou voire même de la garniture 100% moderne. Donc le semi-traditionnel, on a toujours notre base de sangle en jute, on a toujours notre base de ressort avec la partie guindale. Par contre, après, au-dessus, on va venir finir en mousse. Donc on va mettre des profilés qui est une mousse vraiment très dure, à forte densité, pour refaire l'aspect des bourrelets qui sont piqués main, généralement garniture traditionnelle. Et après on va finir dessus avec des blocs de mousse. Donc on va travailler, parce qu'on va les débiter, on va les couper, on va les mettre en forme, on va les coller. Donc par contre, bien sûr, on va gagner la moitié du temps. Mais au lieu de faire 8 heures une assise, on va être sur 4 heures. Mais en durée de vie, ça va se ressentir aussi derrière.
Et vous avez une clientèle encore pour ce genre de produits comme de très grande qualité?
Eh bien, on a encore une clientèle qui tienne encore à leur fauteuil, parce que très souvent, les fauteuils, c'est des meubles qui ont été donnés par la famille. C'était le fauteuil du papa, ça peut être le fauteuil de la maman, c'était celui du grand-père, et puis ça se transmet. Donc, il y a une petite valeur sentimentale derrière. Et donc effectivement, aujourd'hui, il y a quand même on a un petit ralentissement au niveau de l'activité, mais il y a quand même certaines personnes qui connaissent la valeur de ce travail et qui sont prêts à payer pour avoir quelque chose qui va durer. Voilà. Donc il y a un petit peu tout type de clientèle, parce que c'est vrai, moi quand on vient me voir, quand on me dit « je veux refaire ça », bon, on arrive à sentir un peu le client, donc de suite on va lui dire on vous le dit de suite, ça va vous coûter aussi cher qu'un canapé neuf. Voilà, vous faire offrir votre chaise, aujourd'hui votre chaise dans le commerce, vous pouvez la trouver nettement moins chère. Bien sûr, il y a toujours cette valeur de qualité, donc le client soit il est prêt à faire le pas, ou soit son fauteuil il le met de côté.
En tout cas, oui, ça a l'air d'être du solide, hein. Ça se voit. Est-ce qu'on pourrait peut-être passer à vos autres activités?
Bien sûr, on va aller voir le showroom. Donc, c'est une nouvelle partie, on a fait des travaux un peu en mai dernier. Le showroom est une nouvelle partie sur laquelle on expose nos 4300 références de tissus. Donc par exemple ici, dans le showroom, donc, toutes les pentes sont là pour que les clients puissent choisir leur tissu. Donc on va avoir tout type, on va avoir le rayon au niveau voilage, au niveau rideau. Donc ici on a un large choix, que ce soit dans les couleurs ou dans les matières, ou tout ce qui peut être effet de matière. On peut avoir de l'aspect vraiment traditionnel, le classique, vraiment du très moderne. On a à peu près une quinzaine de maisons différentes d'éditeurs de tissus. Tous les fauteuils qui sont exposés là, donc ça, ce sont des fauteuils qui ont été faits pour des clients qui sont prêts à partir dès qu'ils seront dans la région. Parce qu'on a une clientèle qui est pour la région parisienne, on travaille pour la région lyonnaise, on a des personnes sur le secteur valentinois, on déborde un peu du Tignois. Tout ce qui est en face ici, donc là, c'est tout ce qui est apparenté pour faire du siège, qui est avec des nombres de tours Martindale assez élevés pour la résistance au niveau de l'usure. C'est des collections que l'on va acheter pour pouvoir proposer du métrage de tissus à nos clients.
Ça, c'est le showroom des tissus.
Alors ça, c'est le showroom des tissus. Ce produit-là, ce fauteuil girafe, alors il a une petite histoire. Parce que ce fauteuil girafe, ça a été mon épreuve d'art plastique quand j'ai passé mon bac. Alors il a un dossier qui est suspendu pour avoir un effet de souplesse. Donc le thème était l'Afrique. Et à partir de là, il fallait qu'on fasse des ébauches de fauteuils. On a dû faire à peu près 500 ébauches différentes de fauteuils. Et on a dû choisir un fauteuil sur lequel on était capable de faire évoluer, qu'on était capable de mettre en forme. Et ça a été le travail d'une année, parce qu'il a fallu le concevoir, il a fallu étudier au niveau des hauteurs, largeur d'assise, hauteur de dossier. Donc moi, je suis parti sur cet aspect fauteuil girafe, avec la tête, la fausse crinière, les antennes, les pieds, et notamment les sabots qui sont en noix de coco. Là, j'ai fait appel à un ferronnier d'art pour faire ma structure métallique, afin de, après, l'habiller. Donc il y a plusieurs produits, parce qu'on a une structure métallique, on a du contreplaqué, puis après, on a tout ce qui est garniture moderne, donc on a de la mousse alvéolaire à l'intérieur.
Je suppose que ce modèle n'est pas à vendre.
Ce modèle n'est pas à vendre. Celui-là, après, s'il y a certaines personnes qui sont intéressées, on est en mesure d'en produire quelques-uns. Mais celui-ci, c'est le petit bébé que je garde. Voilà. Donc, à la fin de l'année scolaire, pour passer le bac, on a dû le présenter à un jury. Un jury qui était composé de professeurs et de professionnels. Donc, on a dû expliquer notre démarche. Et
vous avez été bien noté.
J'ai eu une assez bonne note, oui.
Sans plus.
j'ai eu 14 sur 20. Voilà.
D'accord. Puis après, il y a la surface de vente classique dans laquelle il y a des canapés. Alors, ça, c'est une autre de vos activités,
voilà,
c'est du négoce.
Ça, c'est une autre activité qui est du négoce. Donc la surface de vente, on a à peu près 400 mètres carrés de surface. Donc on a tout l'espace literie. L'espace literie est constitué d'une partie ressort, une partie alvéolaire. Donc la partie alvéolaire, on va retrouver tout ce qui est composant mousse, latex et mousse à mémoire. La partie ressort, on va voir tous les ressorts. Après, c'est l'autre partie, donc le bas du magasin est composé également avec une expo un peu de salon. La partie linge de maison et peignoir, la partie linge de lit avec les draps, housses de couette, les couettes et puis protection literie. Et après, à l'étage, on a également la partie expo salon et petits meubles.
En général, vous vous situez dans des standards de qualité assez élevés quand même.
Alors nous, on va être sur plutôt du moyen-haut. Après, il y a encore d'autres produits qui sont bien plus onéreux. On pourrait travailler avec des franchises très élevées au niveau du panier moyen, qui n'est pas adapté pour la région sur laquelle on est. Nous, on a un aspect un peu plus traditionnel. Et puis ce qu'on aime aussi, c'est sortir un peu des sentiers battus. Nous, les produits qu'on va vous proposer, on va pouvoir vous les proposer avec un large choix de tissus. On va pouvoir proposer des modèles qui se font à dimension voulue. Donc certains modèles ont un minimum de largeur et on peut composer avec des largeurs différentes. Donc on peut rajouter à chaque fois 20 cm. On peut l'adapter en fonction de la taille de sa pièce. Donc on a des produits comme cela. Après, sur les produits, on est plutôt moyen-haut parce qu'au niveau de la literie, on pourrait vendre des matelas qui sont à plus de 1 500 € et avoir que ça. En literie, nous, on va démarrer un matelas sur un 140-190, on va démarrer à 200 € et on va monter à 1 500. Que dans certains magasins, ça va démarrer à 1 500 et on va monter jusqu'à 5 000 €. Voilà, au niveau des canapés, c'est pareil. On travaille avec des marques qui sont moyen-haut, sur lesquelles on aurait pu proposer des produits nettement plus onéreux, comme certaines marques italiennes, mais on n'aurait pas été vendable dans le Diwa, et puis c'est pas vraiment ce que la clientèle recherche par ici.
Par contre, le premier canapé qu'on voit à gauche en entrant, il y a un petit panneau fabriqué en français. C'est important pour vous ?
Alors ça, c'est très important, et nous, on fait quand même très attention à ça. Alors ça, c'est tout ce qui est convertible. Donc on a encore beaucoup de chance au niveau de la fabrication française de trouver de la literie et des convertibles. Après, maintenant, au niveau des canapés, on a ressenti depuis quelques années auxquels ça devenait un peu compliqué. Donc là, on travaille avec des fournisseurs belges, on a des fournisseurs italiens. Malheureusement, en fabrication française canapé, les fabricants avec qui on travaillait, ils sont tous passés au dépôt de bilan. Voilà. Parce que, ils travaillaient avec des grosses franchises. Et le problème, c'est que ces franchises-là, quand ils ont commencé, eux, à déréférencer les modèles de ces fabricants-là pour faire de l'importation chinoise, et de suite, ils ont perdu au niveau de l'activité. Parce que nous, notre secteur, nous, les traditionnels comme nous, on représente un quart de leur activité. Et les grosses franchises, c'était les trois quarts. Donc évidemment, quand ils avaient des entreprises avec 400, voire 700 salariés, comme l'établissement Cap de Vielle, de suite, ils se sont retrouvés avec un gros ralentissement de la production. Ils n'ont pas pu résister. En 2 ans, c'était plié.
Dernière activité qu'on pourrait peut-être mettre en valeur, et peut-être même celle dont vous êtes le plus fier, à part votre chaise girafe, j'ai entendu dire que vous aviez inventé un oreiller particulier et vous auriez eu des prix à ce propos.
Eh bien exactement. Donc, il y a maintenant à peu près un peu plus de 2 ans, on a innové. Parce qu'on a ressenti un besoin de la clientèle. C'est la clientèle qui nous a poussé à concevoir ce produit. Déjà, on avait une autre gamme d'oreillers polyester, d'oreillers de marque, hein, de marque française, mais également on proposait des oreillers en plume. Alors, le problème qu'on ressentait, c'est que l'oreiller, quand on le présentait, eh bien, il correspondait. C'était la forme, c'était la matière qu'on souhaitait. Mais le défaut, c'est qu'il était soit trop dur, soit trop souple. Donc il y avait un petit manque par rapport à ce produit-là. Et puis sur lequel, nous, en fait, déjà, sur les oreillers plumes qu'on fabriquait, on proposait déjà des grammages différents. Donc on a ressenti cette demande-là, parce qu'on faisait choisir l'oreiller. Ben, vous voulez avec 1,2 kg, 1 kg de plumes, un peu plus dur, un peu plus souple. On est en mesure de vous le faire. Donc à partir de là, on s'est dit, pourquoi ne pas faire un produit qui mixe les deux matières, le synthétique et le naturel, avoir un aspect modulable. Donc on s'est mis dans l'atelier et on a sorti un produit assez intéressant qui est composé d'une housse matelassée. Donc on reprend le même principe qu'il y a sur les matelas, qui est muni d'un zip. Donc c'est une housse qui est déhoussable, qui est lavable. Et à l'intérieur, on arrive à cet aspect modulable. Donc c'est un noyau intérieur qui est fermé, qu'on peut retirer, qui est composé, lui, de plumes et flocons de mousse. Donc ce noyau-là est également lavable, mais c'est surtout là-dessus qu'on va jouer sur la personnalisation du produit. Donc les housses sont communes à tous les oreillers, mais le noyau, vous choisissez la densité. Donc vous allez avoir le choix entre trois densités, entre une version souple, ferme ou extra ferme, que nous on va vous recommander en fonction de la position de couchage. Donc si vous dormez sur le ventre, sur le dos ou sur le côté, on ne va pas vous recommander le même noyau. Les recommandations qu'on va donner, ça permet de guider un peu le client sur le noyau qu'il lui faut. Après, il faut qu'il essaye un peu pour voir vraiment lequel lui correspond. Ce n'est pas vraiment juste pour tout le monde. On peut proposer un extra ferme pour une personne qui dort sur le côté. Mais si elle n'est pas habituée à avoir du volume sous la tête, eh ben, il va falloir s'adapter. Donc il va falloir redescendre un peu sur la densité inférieure.
Quand j'ai commencé à parler de l'oreiller, j'ai dit que vous aviez eu des prix. Quels sont-ils ?
Alors, on a eu deux prix. On a eu en 2012, après avoir fini le produit, donc on s'est inscrit à des concours. Le premier concours, c'est le concours Artinov, qui est proposé donc, par la région, qui regroupe trois départements, qui regroupe la Drôme, l'Ardèche et l'Isère. C'est ouvert à toute entreprise. Ça se déroule un peu comme les Oscars. On concourt dans des classes différentes. Et puis, il y a un jury qui va juger. Si, donc, déjà, il faut que ça soit un produit innovant. Il faut qu'il y ait un peu un aspect développement au niveau de l'entreprise. Donc ce premier prix que l'on a eu, c'est le prix Artinov. D'ailleurs, ça a été une grande surprise parce qu'il y avait vraiment du monde, on peut dire qu'il y avait du lourd derrière. Et puis bon, ça a plu au jury. Donc ça, c'était en 2012. Et en 2013, donc, on m'a proposé de participer au concours Céador. Ce concours-là est plus sur l'aspect économique que sur l'aspect innovant. Donc bien sûr, il faut apporter une innovation, mais cette innovation, en quoi elle va constituer à développer notre secteur d'activité, à développer notre entreprise. Donc en 2013, le Céador, donc lui, il est proposé par contre par la banque Le Crédit Agricole, donc toujours sur le sud-est. Donc là, pareil, la grande surprise, on a gagné ce trophée-là. Donc on m'a récompensé par rapport à l'aspect, à la stratégie qu'il y avait derrière de développement de l'activité. C'est aujourd'hui, dans notre magasin, donc on est trois à travailler. Bon, il y a encore le papa qui vient donner un peu des coups de main, malgré qu'il soit à la retraite. Il décroche pas facilement du boulot, mais il vient me donner encore des coups de main pour la livraison, les choses comme ça. Mais aujourd'hui, on est trois en mesure de produire à l'atelier et d'être en fort vente au niveau magasin. Donc cet aspect-là, l'oreiller, nous a poussé à créer une gamme. Une gamme de produits, donc l'oreiller, maintenant c'est fort à peu près d'un peu plus de 18 références, la gamme Système Ergo Plus, donc qui est le nom de l'oreiller. On va le proposer en 3 dimensions, il est en 60-60, il est en 40-60 et en 50-70. Donc ça nous constitue une petite gamme, mais également depuis cette année, là, une nouvelle gamme que je sors, c'est des aspects un peu plus traditionnels, l'oreiller traditionnel, donc un oreiller qui est un peu moins onéreux, qui demande beaucoup moins de travail, mais qui va venir compléter la gamme. Donc le trophée Céador nous a récompensé par rapport à cette stratégie d'évolution qu'on a mis en place. Donc aujourd'hui, ce produit-là, on le diffuse auprès d'autres spécialistes literie. Donc notamment, il y a des magasins qui sont aux alentours du Diwa, notre revendeur, notre Apriva. Ça peut être à Gap, ça peut être à Nyons, on en a à Lyon également. Donc il est proposé dans d'autres magasins. Et puis là, dans 15 jours, je participe au salon professionnel de l'ameublement, situé à Nantes, qui est ouvert uniquement à des spécialistes literie, immeubles ou des hôteliers, sur lequel je vais avoir un stand pour proposer ma gamme. Donc on va essayer encore de faire des implantations. Aujourd'hui, donc, on a un commercial sur le secteur Rhône-Alpes qui est en charge également de visiter les magasins et de proposer le produit. Après, aspect commerce sur le DIY, on sent qu'on a besoin de toutes les activités que l'on fait, parce que malgré tout, ben, on est quand même trois à travailler, quoi. Il y a trois salaires à sortir. Donc cet aspect-là, c'est un complément d'un petit peu de tout. Donc la vente de literie, l'artisanat, tout ce qu'on conçoit, puis également ben, les salons. Donc mis bout à bout, on arrive quand même à s'en sortir. Juste l'activité de literie ne suffirait pas. Juste l'activité de tapisserie ne suffirait pas également.
Et celle de négoce non plus.
Voilà.
Dernière question sur l'oreiller, c'est vous qui le fabriquez ici même ?
Le noyau intérieur est fabriqué ici dans notre atelier, qui est juste derrière le magasin. Donc ce noyau-là, au niveau coutil, le tissu qui va nous servir à faire le noyau, il vient des Vosges. Et au niveau de la plume, elle, c'est une plume neuve, qui est stérilisée et tuvée pour tout ce qui est problème d'acarien. Mais surtout, c'est une plume de haute qualité, qui peut être lavée à 40 degrés. C'est cette plume-là, et une plume qui vient des Pyrénées. Donc qui vient des Pyrénées, mais qui met que j'achète auprès d'un fournisseur qui est dans le Gers. Donc c'est vraiment local. Après, la housse, elle, il faut une machine assez spécifique, une machine qui vaut à peu près 500 000 euros, que malheureusement, je n'ai pas les moyens de me la payer, mais je ne désespère pas qu'un jour, je pourrai peut-être la payer. C'est une machine très particulière, qui doit piquer en continu des plateaux. Donc en fait, c'est une tête de pique qui se déplace sur un cadre et pour faire du motif placé. Donc ça, pour le moment, je le fais sous-traiter. Donc il y a eu plusieurs sous-traitants. On a eu fait sous-traiter ça vers Courtaison. Et puis là, maintenant, on travaille avec un sous-traitant qui est au Puy-en-Velay. Donc ça dépend un peu du moment, si on a besoin de grosses quantités, de petites quantités, la disponibilité dans l'atelier de confection à ce moment-là. Donc c'est soit l'un ou l'autre qui travaille.
Et alors ça marche ?
Eh ben on a un excellent retour, donc on a au niveau de la clientèle sur 10, les DIY ont très bien joué le jeu, et je les en remercie, parce qu'ils m'ont soutenu, et c'est vraiment plaisant de voir ça. On a vu certaines personnes qui sont venues, ils en ont acheté un, et puis après ils sont revenus en acheter pour toute la famille. Voilà. Alors après je ne cache pas non plus qu'il y a certaines personnes, on a identifié à peu près une dizaine de personnes pour qui ça n'a pas eu l'effet souhaité.
Voilà. Ils sont revenus à l'oreiller normal.
Ils sont revenus à l'oreiller normal, oui. L'oreiller, c'est vraiment un aspect très compliqué. C'est même plus compliqué qu'une literie au niveau du choix. C'est pour ça qu'on en a encore 10 fois plus que la literie. Parce que la literie, on arrive toujours à trouver le compromis pour un couple. Un oreiller, c'est vraiment quelque chose de très personnel.
Moi, je préfère le traversin, je vous le dis tout de suite.
Voilà.
Eh bien, vous parlez souvent de votre atelier qui est juste derrière le mur. Est-ce que vous pourriez me le montrer avec toutes les machines ?
Eh bien, allons-y, avec grand plaisir. Alors, tout de suite, on arrive dans la partie confection. Donc ici, par exemple, on a la table à matelas. Donc la table à matelas, elle va nous servir pour fermer le matelas de laine sur le côté. Donc c'est une machine vraiment très spéciale, qui est montée à 45 degrés. C'est une grosse machine sur laquelle on est capable de poser un ruban. Donc celle-ci, on peut faire une couture sur le bord, uniquement sur le bord, avant de piquer les bourrelets-mains. C'est juste pour fermer le matelas. Donc on a vraiment besoin de cet aspect-là. Donc ça, ce sont les gros cartons qui sont remplis d'oreillers en partance pour le salon de Nantes. Ici, on va retrouver trois machines différentes. Donc on a une surjeteuse. La surjeteuse, elle est là quand on a découpé un tissu pour venir finir une petite couture pour éviter que le tissu s'effiloche. Donc ça permet de coudre sans avoir à assembler deux tissus en même temps. Ça fait un surjet. Celle-ci, c'est une simple entraînement. C'est pour faire un petit ourlet. Et là, on a une triple entraînement. La triple entraînement, donc elle est encore différente. C'est une aiguille qui est entraînée par un pied, qui est entraînée par une grille en dessous. Donc avec ça, on est capable de coudre 6 à 8 épaisseurs de cuir en même temps. Ça peut coudre très épais, et je vous garantis qu'il ne faut pas passer les mains dessous.
Je n'ai pas envie d'essayer.
Donc ici, on se retrouve encore avec des simples entraînements, qu'on utilise beaucoup donc, pour la confection d'oreillers quand on fait de la série. On installe les machines différemment pour pouvoir assembler les noyaux, et puis pour pouvoir fermer les oreillers. Donc là, c'est la table à confection des rideaux. Donc c'est une table qui n'est pas très large, mais qui est très longue, pour pouvoir travailler au niveau de la hauteur. Donc à cet endroit-là, c'est la table de travail pour tout ce qui est fauteuil. Donc là, on a, par exemple, là, je suis en cours de faire une garniture. Donc c'est une garniture traditionnelle qui est en crin. Donc ça, c'est tout le piquage à la main qu'on fait avec ces grandes aiguilles. Donc notre fil en nylon, le gant en cuir pour pouvoir tendre le fil et faire de la force. Ça, par exemple, c'est des outils. C'est ce qu'on appelle un tire-crin. Donc, c'est un outil qui est très pointu et sur lequel on va pouvoir travailler le crin. C'est pour le mettre en place dans la garniture. Une fois que la garniture est fermée, on peut le modeler un peu. Là, c'est ce qu'on appelle le marteau du tapissier. Donc, c'est un nom très particulier, c'est un ramponneau que ça s'appelle. Donc, on peut avoir plusieurs dimensions. Là, on a un côté aimanté, puis un côté un peu plus gros pour taper les clous dorés. Ça, c'est la troisième main.
Il n'est pas très épais, votre marteau, hein ?
Non, il n'est pas très épais, mais c'est pour travailler en finesse.
Il faut être précis dans
Il faut être précis. Il faut être très précis. Ici, par exemple, on a ce qu'on appelle donc la pelote. La pelote, on va retrouver un peu toutes les aiguilles. Donc, on va retrouver tous nos houseaux pour nous aider à maintenir les tissus. On a toutes nos aiguilles donc de tailles différentes. Là-bas, je travaille avec la grosse pour faire des grands points. Après, on peut travailler avec des aiguilles un peu plus petites, jusqu'au modèle un peu de chirurgien. Faire les toutes petites coutures, les petites coutures cachées. Après, on a des différentes aiguilles. Par exemple, celle-là, c'est une aiguille longue pour faire le point de fond. Donc, c'est le point central qui est sur la garniture, qui nous permet à maintenir la garniture. Et également, on a celle-ci qui est particulière, qui a trois faces. C'est une aiguille à trois faces, mais qui est faite pour percer les sangles, quand on coud les ressorts aux sangles. Elle est très rapide au niveau perçage et très précise.
C'est un vrai savoir-faire que vous avez là.
C'est un peu ce que je disais tout à l'heure. Il y a beaucoup de connaissances à avoir. Ce même mois, maintenant, ça fait 10 ans que je suis sorti de l'école et que je travaille. J'ai eu 4 ans d'école derrière et j'apprends encore beaucoup de choses.
Et ce savoir-faire date de Matisse-Delem, je pense.
Ce savoir-faire, c'est vrai qu'il date de 1935. Alors, à l'école, c'est bien, mais on apprend beaucoup de choses. Mais après, c'est pas forcément la réalité aussi du travail. Donc, par moment, il va falloir sortir un peu des clous. Voilà. Là, on a des ciseaux différents et moi, je m'en sers suivant ce que je vais couper. Donc, par exemple, celui-là, c'est plus pour les tissus. Celui-là, ça va être plus pour les grosses matières. Donc, quand je vais couper les toiles jute, ou les toiles blanches, ou mon fil. Et après, celui-ci.
Il y a un chat aussi dans l'atelier, je vois.
Il y a un chat aussi dans l'atelier qui est là pour nous...
Pour
tenir la compagnie, mais surtout faire la chasse aux souris.
Ah oui, il ne faut pas qu'il y ait de souris par ici, je
pense. C'est très très important parce qu'elles nous font un peu des dégâts de temps en temps. Là, par exemple, on a une garniture que je suis en train de faire également, qui est en crin, donc qui n'est pas finie. Donc là, vous pouvez admirer, par exemple, ici, les lacets. Et ces lacets-là qu'on a fait en ficelle, on va les remplir de crin végétal. Donc on avance petit à petit. Ça, c'est la photo qui vient. Là, par exemple, donc Mireille, qui a à peu près 28 ans de maison, est en train de faire des sommiers. Donc là, elle en a fini un. Ceux-là, c'est ceux qui vont partir pour la fin de semaine. Donc les caisses sont déjà prêtes. Elle a tout monté au niveau des lattes. Donc vous pouvez voir un peu les renforts. Vous pouvez voir au niveau des vis, l'assemblage, les masses d'angle. Ce n'est pas que collé. C'est également vissé. Là, au fond, derrière, on a le stock de planches qui vont pouvoir être débitées. Maintenant, de la partie de l'atelier, je vais vous emmener à l'atelier bois, qui est une partie encore différente du magasin, mais sur lequel une partie un peu stratégique. Si on a besoin de débiter au niveau des planches, et sur laquelle également on a installé notre cardeuse. Donc notre cardeuse qui va nous servir à carder notre fameuse laine. Donc voilà, là nous sommes dans l'atelier bois. Donc cette cardeuse qui avant était manuelle, maintenant c'est cardeuse électrique. Donc quand on va démonter un matelas, on va envoyer la laine donc par ce côté-là, qui va passer dans le tambour. Donc là, vous voyez, il y a encore un petit peu de laine dedans. Mais si vous baissez un peu, ici, on a des grosses dents. Vous voyez tous les clous, là ?
Oui, je vois.
Voilà. Donc ça, la laine, on l'envoie d'un côté. Elle ressort par ce côté-là, toute cardée. Et par ici, on a l'aspiration qui va pouvoir évacuer tout ce qui est poussière... ou déchets, ou des choses comme ça.
Et d'où provient cette laine en question? Puisque on a fait tout un sujet sur la renaissance d'une filière laine, et à ma connaissance, vous êtes un des seuls locaux qui utilisent cette ressource locale.
Alors voilà, cette ressource, c'est vrai que nous, donc on l'achète à un fournisseur qui c'est de la laine du Diwa, donc du Haut Diwa, c'est de la laine blanche, hein, c'est de la laine de mouton blanche. Donc pourquoi on utilise celle-ci? Parce que c'est une laine qui est très bien pour faire les matelas de laine. Vous voyez, c'est une laine qui a une fibre qui n'est pas courte, qui donne beaucoup de volume. Et cette laine-là, Donc elle, nous, elle, donc elle est récoltée par un fournisseur qui l'emmène dans le Limousin pour la laver, pour la stériliser, tout ça, et qui nous revient sous forme de gros ballons.
Et vous en utilisez combien de tonnage par an de laine comme ça?
Ouais, les bottes de laine, c'est des bottes qui font un peu plus de 50 kilos. On en passe à peu près un peu plus d'une par mois. Je dis 50 kilos, non, elles font beaucoup plus que ça, parce qu'on peut faire un peu plus de 3 matelas. Et dans un matelas, il y a à peu près 24 kilos de laine. Donc on est plutôt sur du 75-80 kilos au niveau de la botte. Ouais. Donc ça, ici, c'est on a la partie pour débiter les planches à la bonne dimension pour faire du sommier, parce qu'on est capable de sortir d'un standard. Si on nous demande aujourd'hui un sommier qui fait 145 en largeur, on est capable de faire un sommier 145 pour rentrer dans un vieux lit, un lit bateau ou des choses comme ça.
Maintenant, le problème, c'est qu'on ne trouve pas des draps adaptés à des lits bâtards quand même.
Ben non, c'est vrai que ça devient maintenant de plus en plus compliqué, mais tout ça, après, nous, on est en mesure de retoucher les draps aussi. Donc on a toujours une solution pour le client. Ici, c'est la raboteuse. Donc nos planches brutes, on les passe là-dedans. Ça permet d'enlever toutes les épines, les écharges qu'on va trouver. Et le bois ressort complètement lisse comme celui-ci.
Vous avez quand même pas mal de machines en fait.
Ah, on est obligé. On ne peut pas travailler ça en toute manière. Donc après, ça sont des machines qui sont très solides, hein, parce que ce ne pas des machines récentes. Mais c'est des machines, par exemple, cette raboteuse, déjà mon grand-père s'en servait. Elle marche vraiment très bien, elle est très précise, et puis de temps en temps, on fait juste un aiguisage des couteaux, et ça tient la route. Alors ici, on est un peu dans la réserve, parce qu'on va avoir, on va stocker les oreillers qu'on a confectionnés. Donc on a l'oreiller traditionnel qui est en cale rayée, donc 100% coton, et exprès pour la plume. On a mes oreillers Ergo Plus qui sont stockés là avec toutes les dimensions. Et puis on a également donc là tout ce qui est stock à mousse. Donc on a les deux qualités de mousse différentes, les deux densités, la 40 kg et la 30 kg suivant si on travaille sur un dossier ou sur une assise. Puis en haut, on a tous les travaux des clients en attente.
Quel est le délai quand quelqu'un vous emmène justement une chaise Voltaire?
Un fauteuil Voltaire, bon, actuellement on est à peu près à 2 mois de délai. Voilà. Comparé à 6 mois de délai avant.
Donc enfin, vous avez accéléré le tempo?
Non, on n'a pas accéléré, c'est qu'il y a quand même un ralentissement au niveau un peu de l'activité. Voilà, avant, c'est vrai qu'on avait une vue qui était beaucoup plus large, beaucoup plus longue, mais maintenant, il y a un petit ralentissement.
Donc oui, c'est un ralentissement qui ne tient pas à vous. Il y a cette crise dont tout le monde nous rabâche les oreilles. Est-ce que vous êtes optimiste? Quelles sont vos perspectives? Et auriez-vous des projets supplémentaires?
C'est vrai qu'on a du mal à voir l'avenir quand même. On a du mal à voir l'avenir, on a du mal à se projeter sur l'avenir parce que moi j'avais envie d'embaucher une personne, je recherchais une personne, mais on est à ce moment-là, on est retombé sur une activité très calme au niveau du magasin. Nous on a besoin de personnes compétentes ici parce qu'il faut qu'on passe de. On doit savoir tout faire, donc on doit savoir travailler à l'atelier, on doit savoir partir en livraison et on doit savoir servir le client également. Donc le magasin est un peu calme à ce moment-là, c'est vrai que la personne que je risquais d'embaucher risquait de tourner un peu en rond. Donc, étant donné qu'on ne savait pas trop où c'est que. On ne sait toujours pas trop, on a du mal à se projeter. Pour le moment, j'ai laissé un peu tomber la recherche d'embauche. Je ne désespère pas, parce qu'il faudra bien qu'à un moment donné, quand ma mère va prendre la retraite également, il va falloir que je trouve quelqu'un. Et puis c'est vrai que après commercialement, je pense que l'activité va se maintenir, mais on sent quand même que ça se durcit. Nous ici, donc on ressent maintenant la concurrence d'Internet qu'on n'avait pas il y a 5 ans, mais maintenant on sait que les personnes viennent, comparent, donc on fait très attention au prix avant de mettre un prix dans le magasin. On va regarder ce qui se fait un peu ailleurs. Moi, je fais régulièrement des relevés de prix donc chez les concurrents qui sont aux alentours, et puis je regarde un peu ce qui se fait sur Internet. Après, il reste aux clients de faire la bonne comparaison également.
Et puis s'ils veulent aussi travailler local?
S'ils veulent travailler local, s'ils veulent effectivement avoir un produit qui tient la route, c'est chez nous qu'il faut qu'ils viennent.
Alors, dernière petite question, monsieur Lassalle. Avez-vous un site internet pour promouvoir vos activités?
Bien sûr, donc on a un site qui est en cours de construction. Donc les clients peuvent se rendre, ou toute personne qui souhaite avoir des informations, peuvent se rendre dessus. Donc c'est www.julien-lassalle.com. Ou sinon, ils peuvent également visiter notre page Facebook, qui est facebook.com/JL Ameublement.
Merci pour toutes ces précisions. Et puis, c'est quand même pas tous les jours qu'il y a des entreprises qui maintiennent un savoir-faire ici même et qui utilisent les produits locaux. Donc, je ne peux que vous souhaiter que vos affaires fleurissent, embellissent et croissent de plus belle. Monsieur Lassalle, au revoir.
Eh bien, merci Louis. Merci pour votre interview. À très bientôt.
Au revoir. Déambulation.